Nous allons lire ensemble le texte qui va nous servir d'appui pour parler de la miséricorde de Dieu. C'est dans l'évangile selon Luc chapitre 7, c'est sur la feuille, en page 2. Je fais cette lecture, nous n'avons pas d'autre appui que la Bible, l'évangile, la parole du Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. La miséricorde, un sentiment qui devient rare dans notre monde, qui était dans l'Antiquité considéré comme une faiblesse. On n'était pas des hommes quand on était miséricordieux. Mais au Moyen-Âge, au XIIIe siècle et plusieurs siècles après encore, il y avait un ordre religieux un peu particulier où les gens s'engageaient, écoutez bien la suite, pour aller prendre la place d'un prisonnier en Algérie, à l'époque il y avait quelques problèmes, et ainsi des hommes partaient prendre la place d'un prisonnier et en mouraient. Ils n'allaient pas en vacances. Ils allaient mourir à la place d'un autre, père de famille, souvent, qui revenait. Ainsi est revenu un de mes Cervantes, l'auteur d'un grand roman espagnol, j'ai oublié le nom, Don Quichotte. Ainsi est revenu Cervantes. Et 600 000 avec lui, au cours des temps. Geste de miséricorde, prendre la place d'un autre. Là, nous voyons Jésus qui rentre dans une ville et qui rencontre un cortège funèbre. Une femme veuve, les malheurs parfois s'ajoutent, perdu son mari, elle perd son fils, son unique. Jésus ne fait pas de discours devant la veuve. Entendrait-elle un discours? Elle pleure. Et quand on pleure, on n'entend pas, on ne voit pas. Le monde s'arrête et on se demande pourquoi les oiseaux chantent toujours. On a perdu son amour, son fils, son unique. Si vous ouvrez la Bible, vous verrez que c'est le livre des souffrances, au pluriel. Mort d'enfant, des gens déportés dans la nostalgie du pays, hostilité d'un milieu difficile, des gens difficiles, cruels, maladie, solitude, remords. Il faut lire l'histoire de Job, évidemment. Il faut lire l'histoire de David avec tous ses adversaires qui le haïssent sans cause. Pourquoi cette souffrance qui déferle sur le monde toujours et toujours? Nous avons le sentiment que le monde n'est pas achevé. Le sentiment qu'il y a un inachèvement dans notre nature, dans notre humanité. il nous manque quelque chose. On n'est pas complet. Toute la vie humaine est faite de passages de souffrance. L'enfant quitte sa mère, le sein de sa mère, en criant. La femme souffre, l'enfant souffre. Dans l'enfance, quelle souffrance également. Provoquée ou en nous, psychique. Avec les enfants, quelle souffrance. Dans la vieillesse, aux approches de la mort. Toute la vie est faite de passages d'arrachement. Une spécialiste de la mort disait, c'est Kubler-Ross, il faut mourir pour vivre. Mais il y a des souffrances tellement grandes que l'homme vient à préférer mourir sans savoir ce qu'est la mort. Je pense à Job qui a perdu tous ses enfants. Je pense qu'on ne peut pas aller tellement plus loin. Il disait, je voudrais que disparaisse le jour où je suis né, qui n'existe plus dans le calendrier, qui n'ait jamais existé. Il disait, j'aurais voulu mourir dans le ventre de ma mère et ne jamais vivre. Tellement la souffrance l'écrase, l'oppresse. Les souffrances peuvent être tellement grandes qu'elles peuvent défigurer, détruire l'homme dans son corps, dans son psychisme, dans son esprit, dans ses relations. Il y a des souffrances physiques que nous connaissons tous. Il y a aussi des souffrances intérieures. Un mal-être, un mal dans sa peau. Vous connaissez l'expression. Un désespoir quand on perd la personne qu'on aime. Parce qu'elle meurt, parce qu'elle nous quitte, parce qu'elle nous abandonne. Et ça, c'est une souffrance qui n'est pas prise en compte par la sécurité sociale. Parce que ce n'est pas médicalisé. Mais c'est une souffrance qui détruit l'homme. Et puis, il y a des souffrances spirituelles, morales. Quand on perd le goût de vivre. Quand on ne comprend plus le sens de la vie, quand on est accablé par un sentiment d'échec, nous voyons les suicides actuellement à cause du manque de travail, suicides qui se multiplient en France, où des gens disent pourquoi vivre plutôt que mourir ? Écoutez bien, pourquoi vivre plutôt que mourir ? Ça veut dire que des personnes actuellement mettent deux mots qui leur semblent équivalents, vivre et mourir. Pour eux, c'est pareil. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre, après tout ? Je crois qu'on a besoin de retrouver l'essentiel là, pour continuer la vie, du sens à la vie. Job disait, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle naît pour voler. Quelque chose qui est naturel, donc. Jésus n'a jamais invité à la soumission devant la souffrance. Il n'a jamais dit que l'on aime la souffrance, que l'on cherche la souffrance, mais plutôt que l'on combatte la souffrance. Même quand il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », il ne dit pas « Bravo si vous souffrez », il dit « Quelqu'un va vous consoler ». Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Bien sûr, la souffrance, inévitable pour chacun, peut devenir une qualité de relation, parce que quand on souffre, on n'a pas la même relation avec les autres. Des choses qui nous paraissaient autrefois banales deviennent importantes. Dans la souffrance aussi, on peut redécouvrir un émerveillement devant la création. Vous connaissez l'histoire de Job, quand Dieu lui a montré tous les animaux. Il a emmené Job au zoo en disant « Regarde ce que je fais. » Donc j'ai ma main sur toute chose. Et puis, dans la souffrance, on peut développer un sens affiné de la compassion. On peut retrouver une simplicité de cœur. Et puis, on recherche Dieu. Seigneur, viens à mon secours. David qui dit, j'enfonce dans la boue des profondeurs, Seigneur, secours-moi. Psaume 69. Je ne sais pas ce qu'on va devenir avec autant de souffrances. Mais il est prévu une transformation, une transfiguration du monde, de l'humanité, de la planète, et même de tout le cosmos. C'est signé dans la Bible. Il est prévu un état définitif où la souffrance, le mal, la mort n'existeront plus. Dieu essuiera toute larme, Apocalypse. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni cri, ni larmes. Voilà ce qui est prévu. Mais on s'est posé la question, pourquoi ne pas créer d'un coup, tout de suite, dès le début, un monde parfait, où il n'y aurait ni cri, ni larmes, ni deuil, ni guerre. La nouvelle création que Dieu va faire définitivement est une union d'amour entre Dieu et l'homme, d'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans un état provisoire où nous avons la liberté d'aimer ou de ne pas aimer. La liberté de nous donner à l'amour de Dieu, la liberté de nous refuser. Et c'est peut-être là qu'est la difficulté. Nous refuser à l'amour de Dieu. En bref, la création d'aujourd'hui, dans cet état provisoire d'attente, elle souffre, dit la Bible dans l'Épître aux Romains. Elle attend, elle soupire, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Sur la souffrance, il faut dire que Dieu n'est pas la cause des souffrances. Ce n'est pas la première cause des souffrances. Car Dieu est amour. Et quand Dieu a créé le monde, l'homme, la femme, la Bible dit ce petit refrain qui revient toujours, Dieu vit que cela était bon. Beau en hébreu. Bon et beau, c'est le même mot. Mais voici que l'homme, depuis toujours, pas seulement le premier, jusqu'au dernier, l'homme est envahi par l'orgueil, la haine, la violence. Il y a une cassure entre le Créateur et la créature. Il y a un refus d'amour, il y a un péché d'amour. On a péché contre l'amour de Dieu. Vous savez la suite. Un désordre est apparu dans l'univers. Caïn a tué Abel. La femme a enfanté dans la douleur. La terre a été difficile à maîtriser, à cultiver. La souffrance apparaît dans la Bible pour la première fois après la chute. La chute, c'est-à-dire le refus de Adam et Ève. Non, pas de Dieu. La souffrance commence. Souffrance comme si, c'est pas comme si, parce que nous sommes privés d'un bien. La souffrance, c'est la privation, c'est l'absence d'un bien. Il nous manque quelque chose, pour cela qu'on souffre. Comme la fleur coupée de son eau, de sa terre, elle souffre. Elle va mourir. Et nous, coupés de Dieu, on a beau faire tout ce qu'on veut. Une vie ne passe pas en nous et nous dépérissons. Le contraire de la souffrance, qu'est-ce que je dirais ? Est-ce la santé, la force ? Quand je lis bien la Bible, le contraire de la souffrance, c'est revenir à Dieu. Parce que si j'ai simplement la santé, mais que je suis quelqu'un d'épouvantable, qui refuse le prochain et Dieu, je vais retomber dans des souffrances. Contraire de la souffrance, c'est la consolation, la repentance, le retour à Dieu. Il faut aussi dire que la souffrance n'est pas une punition de Dieu. Dieu seul a l'art de régler ses comptes sans nous toucher, mais en touchant au Christ. La souffrance n'est pas une punition, nous l'avons déjà entendu. Si vous souffrez, c'est parce que vous le méritez. Des innocents souffrent. Ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux ont eu certainement plus d'une fois le cœur serré de voir les petits-enfants qui souffrent. On a dit un jour à Jésus, devant un aveugle de naissance qui était là, mendiant dans les rues de Jérusalem, « Qui a péché ?» C'est toujours la même histoire. Il faut un coupable et un responsable. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? Lui ? Donc il aurait péché avant sa naissance. Ça va loin. Jésus a dit, ce n'est pas lui qui a péché, ce ne sont pas ses parents qui ont péché. Voilà. Mais il est aveugle pour que des œuvres de Dieu se fassent en lui, et il a été guéri, l'aveugle. Au temps de Jésus, il y a eu une catastrophe. Une tour s'est écroulée, la tour de Siloé. Des tours qui s'écroulent maintenant, on sait ce que c'est, hein. Il y a eu 18 morts. Et Jésus a dit, ces morts, ces personnes n'étaient pas plus coupables que les autres. Parce qu'on pourrait dire, ouh là là, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Alors on se pose beaucoup de questions devant la souffrance qui gagne de plus en plus les couples, les familles, les relations parents-enfants, partout. Est-elle utile vraiment dans notre vie ? Quel sens donner à la souffrance qui n'a pas de sens? France Pastorelli, qui a passé plus de 30 ans de sa vie couchée avec un cœur qui tenait qu'un fil, elle, la fille d'un médecin, et qui a écrit un très beau livre lumineux qui a été lu à la radio pour la France entière par un grand acteur de cinéma de l'époque, je crois que c'était Freinet. Avant la guerre, elle écrit un livre lumineux sur la souffrance et elle dit « Avec les souffrances, la vie ne s'arrête pas. Une source de vie coule toujours en nous, que les autres ne peuvent pas entendre parce qu'ils entendent que la tourmente, nos larmes, nos cris, nos dépérissements, mais la vie coule toujours en nous. Et des forces combatives se réveillant nous dans la souffrance. Avez-vous déjà vu une mère de famille avec un enfant qui devient cancéreux, malade ? Avez-vous vu cette femme se battre jusqu'au bout ? Parce que des forces naissent dans la souffrance. La souffrance nous défait de nos glorioles. On a l'impression qu'on se bat pour des riens. La souffrance nous défait de nos futilités qui ne nous fertilisent pas, qui ne nous donnent pas beaucoup de choses dans la vie. L'esthétique, ça c'est une futilité. Le profit, le pouvoir, la tyrannie du plaisir. Dans la souffrance, on n'est plus dans l'avoir, avoir, avoir. On passe dans le monde de l'être. On veut réussir sa vie en aimant, en comprenant. Mais il faut, dans la souffrance, maintenir son âme au-dessus des flots du désespoir, en écoutant, en regardant des choses lumineuses. Ne crains pas, crois seulement, dit Jésus. Oh, un homme là qui a perdu sa fille, oh, il reprend un peu courage. Je sais que mon rédempteur, mon défenseur est vivant, dit Job au creux de la vague. Je sais qu'il est vivant. Prends courage, il t'appelle, disent les apôtres à Bartimée, l'aveugle, le mendiant, le miséreux. Oui, la souffrance permet de revenir à ce qui est l'essentiel de l'essentiel. le nécessaire, la bonne part aux choses simples. L'Ecclésiaste qui a connu tous les plaisirs du monde, il disait pour finir sa vie, je vais vous dire, je vais traduire ça avec un langage moderne et français, bien, un des beaux plaisirs de la vie, c'est pas d'avoir des étangs et des chanteurs et des grands orchestres dans sa maison. Vous en avez peut-être, je ne sais pas, pardonnez-moi si vous en avez. L'essentiel de la vie, c'est d'avoir un petit repas entre amis et puis de profiter des petites joies que la vie nous donne. Voilà ce que disait Salomon. Parce que voyez-vous, quand on est en bonne santé, tout paraît naturel. Quand on a son mari, quand on a sa femme, quand on a ses enfants, tout paraît tellement naturel. On marche, on respire, on digère. Et puis un jour, rien ne va plus. Ça ne marche plus. Souvent, j'ai rencontré des gens qui ont eu un bras dans le plâtre et qui m'ont dit, on ne pensait pas que notre main gauche nous servait autant. Un membre dans le plâtre et on se sent diminué. Oui, un jour, on est confronté à la vie difficile et à la mort. La Bible nous dit, tu ne sais pas, parce que ça, quand on est en bonne santé, on ne le sait pas, je ne pense jamais à ma main gauche, je ne pense jamais à mon petit doigt, à mon pancréas. Et la Bible dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Autrement dit, tu n'as pas conscience de ta fragilité. Regardez cette femme qui avait une perte de sang dans l'évangile depuis 12 ans. Elle a passé 12 années à chercher à guérir sans aucun soulagement. Là, il n'y avait plus de joie. On ne pensait qu'à la santé. On ne vivait que pour la santé. Il y a des familles où on ne vit que pour récupérer des forces dans la santé. On n'est plus capable de décision, on n'est plus capable de regarder ailleurs. Tous les beaux discours s'effondrent. On a l'impression que devant la mort, devant le deuil, devant la souffrance des enfants, les discours ne tiennent pas beaucoup. Rien ne tient. Comme dit la Bible, le soleil et la lune s'obscurcissent. On ne prend plus plaisir à rien. Ecclésiaste, chapitre 12. Et puis il y a des moments, et peut-être que c'est l'occasion pour quelques-uns parmi nous, où le mal apparaît plus violent, plus dur. On n'a pas la force de tenir. Cette femme qui va mettre en terre son fils unique, cette femme qui a perdu son mari, voilà qu'elle n'a plus rien. On a l'impression que là, elle n'a plus la force. Elle pleure inconsolable malgré tous les gens de la ville. Que nous reste-t-il ? Pensez au Créateur des cieux et de la terre. L'appeler au secours, Seigneur. Je ne te connais pas très bien. Je ne sais pas qui tu es. Mais si tu existes, au secours, peut-être auras-tu pitié de nous. Nous connaissons la puissance éternelle de Dieu. Cela se voit comme à l'œil dans ses grands ouvrages. Même dans l'astéroïde qui est tombé sur l'Oural. Et le soleil qui se lève tous les matins, on voit dans la création qui va revivre dans quelques jours, nous voyons sa puissance comme à l'œil. Mais ce Dieu puissant, ce Dieu fort qui tient tout dans sa main, qui fait tout ce qui lui plaît, de nos vies, du monde, qui est-il ? Parce qu'on peut être fort et cruel. On a connu sur la planète des hommes très forts et destructeurs. Des hommes intelligents et destructeurs de vie, de civilisation. Qui est ce Dieu dont on voit la trace partout ? Que fait-il ? Que pense-t-il de nous ? Eh bien, ce Dieu caché. Ce Dieu qui est fort mais qu'on ne connaît pas, il s'est montré un jour à Moïse, sur le mont Sinaï. Et ce Dieu qui est descendu sur le mont Sinaï, chose étonnante, il s'est mis à crier, à proclamer son identité. Il n'a pas dit « Je suis fort, j'ai créé les cieux et la terre, les étoiles, les papillons, les hommes ». Il a simplement dit « L'Éternel miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité, qui pardonne le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent ». Entre parenthèses, tant mieux. Parce que si des gens coupables, meurtriers, Dieu disait « Bravo, tu es innocent », on ne serait pas très bien, on ne serait pas à l'aise. Donc Dieu a proclamé pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Dieu a crié sur le mont Sinaï ce qu'il était pour nous. Miséricordieux. Dans l'histoire, la ville de Jérusalem, qui est une ville centrale de toute l'histoire du monde, elle a souvent pleuré en disant « Le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et Dieu lui a répondu « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, son nourrisson ? Oublie-t-elle le fruit de ses entrailles, l'enfant qui est sorti de son ventre ? » Et là, nous arrivons à la miséricorde. Parce que miséricorde, ça veut dire vibration de la mer. Je vous dirai un peu plus après. Dans le mot miséricorde, il y a le mot enfantement. La miséricorde, la vibration de la mère, ça fait partie d'elle. Même si son enfant, il va mal, même s'il ne la regarde plus jamais, mais elle est mère et ça restera gravé, gravé dans son âme, dans son corps, dans son cœur, dans son histoire, pour toujours. C'est comme ça. Et voilà qu'au commencement de l'évangile, dans l'évangile de Luc, il est dit que Dieu, par des entrailles de miséricorde, c'est-à-dire avec des vibrations de mère, des vibrations viscérales d'utérus, de mère. Voilà ce qui... Comment je traduis ? Mais je n'ai pas inventé. Par des entrailles de miséricorde, Dieu nous a visités. Et ça, ça représente la compassion. La compassion, c'est être saisi aux entrailles, pris au ventre, hein. Et Dieu, devant cette sensation d'amour qui le fait souffrir, il nous a visités, il a envoyé son Fils sur la terre, parmi nous, et il est resté avec nous par son Esprit. Amen. Donc Dieu nous a montré une compassion maternelle qui dure toujours, qui a toujours duré. Dieu n'a pas changé parce que Jésus est venu. Dieu est toujours amour depuis toujours, d'âge en âge. Même si nous refusons cet amour, Dieu nous aime toujours et il nous attend. La miséricorde de Dieu dans nos souffrances, dans nos détresses. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas la trousse de secours, d'urgence, qu'on va chercher sous les sièges de la voiture. Ce n'est pas une pitié passagère devant un misérable qui fait la manche sur le trottoir, place de la gare. La miséricorde de Dieu, c'est un engagement de Dieu. C'est une vibration d'amour de Dieu. Et là, nous devenons, nous le sentons bien, une personne considérée pour Dieu, une personne unique, une personne aimée, personne qui compte pour Dieu. Souvent, dans la solitude, on se dit « personne ne pense à moi ». Quand on voit parfois des personnes âgées seules, même des jeunes, qui sont sur les trottoirs et qui sont devenus comme des glaces, comme des miroirs, pas des miroirs, des glaces simplement transparentes, on ne les voit plus. Dieu les considère comme uniques. Le Seigneur Jésus ne se penche pas sur une humanité vue du ciel. Il se penche sur chacun. Il faut que je demeure, dira-t-il à Zachée, dans ta maison, dans votre maison. à la veuve de Naïn, il dit « Ne pleure pas », s'adresse à elle. Chacun compte énormément pour lui. Jésus est ému de compassion, pas tellement devant ce jeune homme qui est couché sur son brancard, sur sa civière, mort. Il est ému de compassion devant la maman. Et on devrait traduire le texte en disant « ému de compassion jusqu'au plus profond de lui-même, jusqu'aux entrailles ». Il vibre dans ses entrailles. Vous savez ce que ça veut dire, parce que nous aussi, on connaît ça. Il vit la souffrance. Et il la voit sur la femme. On ne peut pas lui cacher. On ne peut rien lui cacher. On ne ment jamais à Dieu. On est transparent. La souffrance que vous vivez ne le laisse jamais indifférent. Regardez ce lépreux de l'Évangile à genoux qui dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Le texte dit « ému de compassion jusqu'au ventre ». On pourrait presque dire, sans être trivial, jusqu'aux tripes. Ému de compassion, Jésus le touche et lui dit, mais ça on ne peut pas le traduire, on ne peut pas le jouer, on ne connaît pas le ton de tout cela, on ne connaît pas la musique des paroles de Jésus. Je le veux, sois pur. Mais ça passe, il y a un amour, il y a une miséricorde, une vibration qui passe. Jésus partage la souffrance avec une parole, une rencontre, un geste, un regard, une réponse. Mais nous, nous sommes créés à son image, nous avons en nous des capacités de compassion et de miséricorde. Le professeur Joachim Bauer, il dit qu'il y a en chacun de nous une miséricorde naturelle. Parce qu'il dit, c'est un professeur juif, que je ne peux pas me mesurer à lui, il dit, dans notre cerveau, il y a des neurones qui nous font ressentir la douleur des autres. Autrement dit, je ressens ce que tu ressens. On a cette capacité, parce qu'on a été fait à son image. Donc la miséricorde fait partie de la nature humaine. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de miséricorde, on dit qu'il est inhumain. Quelqu'un qui n'a pas d'amour et qui est dur, on dit qu'il est inhumain. Parce que être humain, c'est quelque part ressembler à Dieu dans la miséricorde. Mais pour nous, notre miséricorde ne va pas loin. Comment voulez-vous que je prenne soin et que je regarde et que j'embrasse toute la ville de Rennes? Je ne parle pas de la Chine encore. C'est pour cela qu'un jour, quelqu'un disait à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Il y en a tellement. « Qui est mon prochain ?» Que je dois aimer. Alors Jésus a expliqué avec la parabole du Samaritain, eh bien, le prochain c'est celui, là, le blessé qui est tombé entre les mains des brigands, là, qui est tout proche, sur ton chemin, il faut que tu enjambes ce blessé, si tu ne fais pas attention tu vas marcher dessus. Attention, c'est lui ton prochain, il te barre la route là, c'est lui que tu dois aimer, aider. Mais la compassion de Jésus, elle va beaucoup plus loin. Jésus cherche sans cesse la brebis perdue, sans cesse, celle qui est sortie des sentiers, celle qui est hors de la vue, celle qui est en danger, entourée de loups, de dangers. Et on pense à nos jeunes, à nos enfants. La compassion de Jésus est pour chacun. Un psaume nous dit, le psaume 145, « L'Éternel est bon envers tous ». L'Éternel, ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il a de la miséricorde pour chacun. Quand Jésus a vu la foule sur la montagne qui le suivait, la Bible dit qu'il a eu compassion pour cette foule. La compassion des apôtres, vous la connaissez, renvoie la foule. Hé, Seigneur, il est tard. Renvoie la foule pour qu'elle aille chercher à manger. Jésus dit... Donnez-leur vous-même à manger. La miséricorde de Jésus n'est pas à l'échelle humaine. Jésus va s'occuper de chacun ici, de chacun de votre famille, chacun de vos enfants, chacun de ceux qui sont dans votre cœur et qui vous font mal. Les apôtres étaient un peu chagrinés quand même. Jésus leur avait dit, allez, on va se reposer un peu dans la montagne. Ça me plairait de passer 24 heures avec Jésus dans la montagne. Allez, les apôtres, on va aller manger, on va aller passer 24 heures dans la montagne, un peu à l'écart de tous ceux qui viennent, qui passent. Et voilà que la foule suit Jésus, une foule immense de milliers de gens qui n'ont pas une miette de pain dans la poche, à part un petit garçon prévoyant qui avait 5 pains d'un côté et 2 poissons de l'autre. Et Jésus n'a pas dit, mais mes amis, écoutez, j'ai rien à vous proposer, repartez chez vous. Sa miséricorde est exigeante. Il va au bout de l'engagement. Dans tous les détails, il va multiplier les pains et il dira, ramassez ce qui reste, ne perdez pas une miette. Il va au bout. Il va dans les détails de la compassion. Nous, il nous arrive d'être compatissants en renvoyant les gens, en nous débarrassant des casse-pieds. Vous vous rappelez la femme qui avait sa fille tourmentée et qui criait devant Jésus. Les apôtres disaient, renvoie-la, oh là là, oh, elle nous dérange. Jésus l'a écoutée et Jésus a guéri sa fille. La compassion de Jésus ne rebrousse pas chemin, elle va jusqu'au bout. Amen. Écoutez l'histoire du bon Samaritain. Quand il a vu le blessé sur son chemin, il ne lui a pas donné un petit remontant. Il ne lui a pas donné quelques bonnes paroles. Bon ben, réchauffe-toi et puis remonte la pente. Il l'a soigné. Il l'a emmené à l'hôtellerie. On dirait maintenant l'hôtel Dieu ou l'hôpital. Il a payé pour lui. Il a promis de revenir et de repayer encore. Il a été jusqu'au bout, dans les détails. Et la miséricorde de Jésus, elle va dans les détails de notre vie. Lui qui compte nos larmes, qui entend nos soupirs, et pas une prière n'échappe à l'attention de Jésus. Donc la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui est blessé par notre mal, blessé par notre souffrance, blessé par notre péché aussi. Jésus, dans l'Évangile, est ému de compassion devant la veuve de Naïm. Ému de compassion, bouleversé, touché. Il en souffre, il en souffre. Vous n'avez jamais souffert devant des situations tellement graves, tellement difficiles qu'on retient, on se mord les lèvres pour ne pas exploser en sanglots, tellement nos entrailles vibrent. Jésus a raconté l'histoire de ce père qui a perdu un fils. Il n'était pas mort, enfin il était mort sans être mort. Il était parti de la maison, jusque dans un pays éloigné où il a gâché tout son héritage, toute sa dignité, tout ce qu'il était de beau et de bien. Et ce fils prodigue, comme nous l'appelons, quand il est revenu vers son père, la Bible dit, il était encore loin, mais son père le vit. Et il fut ému de compassion. Il courut le père, se jeter à son cou, et il l'a couvert de baisers. Encore une fois, il voit la veuve, il voit le blessé sur le chemin, il voit le fils dans sa détresse qui revient. Le regard de Jésus nous fait revenir à la vie. Le fils prodigue ne croit pas dans la miséricorde de son père, il ne croit pas que c'est possible. Et il dit non. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Je ne veux pas être ton fils. Je ne suis plus ton fils. Il ne croit pas dans la miséricorde de son père. Et le fils aîné, lui, qui a été toutes ces années tranquille à la maison, voilà qu'il est jaloux et qu'il quitte la maison maintenant. Un fils revient, un fils s'en va, et l'autre fils aîné aussi ne croyait pas dans la miséricorde. Il refusait la miséricorde de son père. Mais dans cette parabole, Jésus nous montre que Dieu, la paternité de Dieu ne change pas. Le père a dit « mon fils », il n'a pas dit « ce vaurien, celui que je ne connais plus, il n'est plus mon fils, je ne le connais plus, je ne veux plus le voir ». Il a dit « mon fils était perdu, il est revenu. Il était mort, il est vivant. Mon fils ». Quelqu'un a dit « Dieu ne peut-il pas créer 10 000 fils gentils ? Est-ce qu'il va se mettre en quatre pour un fils mauvais ?» Chaque fils compte. Chaque enfant compte. Chaque humain compte. Et j'aime tellement cette miséricorde que je trouve tellement lumineuse. Comme ce père-là, Dieu, il n'use pas de violence. Je peux vous dire que si j'avais fait ce que ce fils, le millième de ce que ce fils prodigue a fait, je serais revenu à la maison et j'aurais eu une raclée terrible. À mon époque. Les temps ont changé. Ce père, il n'a pas humilié son fils prodigue. Il n'a pas dit « t'es qu'un misérable, tu ne vaux pas un sou. Où tu as été ?» Jésus, dans sa miséricorde, n'a pas fait rougir de honte la femme adultère. Jésus, dans sa miséricorde, il a attiré Judas dans un changement de vie, discrètement, dans une repentance, sans dire aux apôtres « vous savez ce qu'il a fait ?» Vous savez ce qu'il fait en ce moment avec la bourse? Il fauche l'argent. Il ne l'a pas dit, Jésus. Délicat, sensible. Et le fils prodigue, son père, il n'a pas fait semblant de se mettre en colère en disant « tu vois ce que tu dois avoir en pleurant ?» Non, il a dit « mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. » L'amour qui éclate de joie, de bonheur. Donc, le Seigneur nous voit tout en bas. Il nous voit de loin. Il se pense sur chaque misère. Une femme, un jour repoussée, une femme en détresse, hagard, égarée dans le désert, elle a rencontré le Seigneur. Il a dit « tu es le Dieu qui me voit ». En plein désert, en pleine détresse, personne ne pensait à elle quasiment. « Tu es le Dieu qui me voit ». Dieu voit ce que nous ne voyons pas. C'est ça sa miséricorde. Il voit ce fils qui se croyait renié, ce fils qui se croyait rejeté, abandonné, déshérité. Mais le Père a dit « tu es mon fils ». Il voit toujours ce que nous sommes par rapport à lui. La miséricorde tire du bien des choses mauvaises. La miséricorde est une corde qui nous tire de la mort à la vie. Miséricorde. Je vais conclure. La miséricorde n'est pas une trousse d'urgence, je le répète. Ce n'est pas une sensiblerie d'un moment de Dieu devant la guerre. C'est vrai que c'est une tristesse sans nom. La miséricorde, c'est la lumière de Dieu depuis toujours. C'est lui. Il a toujours été comme ça. C'est sa nature. En français, le mot « miséricorde », ça veut dire un cœur qui prend la misère des autres. Miséricorde, corde, le cœur, cordialement, cordialement vôtre. Mais dans la Bible, le mot « miséricorde », c'est deux mots. La fidélité, l'engagement, la responsabilité. Dieu s'engage, mais il attend une réponse de nous aussi. Et deuxième mot, miséricorde, matrice, sein maternel. C'est beau, hein ? Dieu est comparé à une mère et il a toujours été comparé à une mère avant que le monde existe. Il n'y avait pas encore un atome de créé. Et déjà, il était le Dieu de la miséricorde, le Dieu qui a un cœur de mère et de père. Pour moi, c'est la qualité la plus fascinante de Dieu, essentielle. Tout est venu de là. Je vous l'ai dit au commencement, il a fait les étoiles par miséricorde, il a fait la lune par miséricorde, il a fait les cafards par miséricorde, je peux y aller ? Les fourmis par miséricorde, il a tout fait dans la miséricorde parce qu'il aime, ce qu'il fait, il a fait l'homme dans la miséricorde, il l'a sauvé par miséricorde. C'est un mystère qui existe d'âge en âge. relira le Magnificat de siècle en siècle, de génération en génération. La miséricorde, c'est notre naissance de Dieu, c'est naître à la vie de Dieu, c'est renaître en Dieu, c'est vivre avec Dieu, comme le fils qui renaît, comme l'enfant prodigue qui renaît, comme le blessé du chemin qui renaît. La miséricorde, ça nous fait renaître, ça nous donne la vie. Dans les journaux italiens, il y a une quinzaine d'années, tous titraient « Merci Nicolas ». Un petit garçon assassiné en Italie dans les années 1994, par là. Les parents, je ne dis pas que ça se fait facilement, ont pardonné. L'enfant était assassiné. Et ils ont dit, on va donner du sens. C'est pas facile, ça. Tout ce que je vous dis là, c'est vrai, mais je regarde simplement et je me tais. On va donner du sens à la mort de notre petit Nicolas. Alors, ils ont autorisé la médecine à faire des prélèvements d'organes pour que ces organes servent aux enfants. Un cœur pour un petit Roumain. Un foie pour un petit Brésilien. Un rein pour un autre. Les cornets des yeux pour des petits enfants aveugles. À partir du mal, ils ont voulu faire le bien. Merci Nicolas. Dieu a donné son fils aussi. Et à partir de ce fils donné, Dieu a fait du bien. Notre blessure est sur Jésus. Notre péché est sur Jésus. Mais il y a une réciprocité. On lui a donné nos ténèbres, il nous a donné la lumière. On lui a donné le mal, il nous a donné le bien. On lui a fait tort, il a pardonné. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Évangile. C'est l'homme de douleur habitué à la souffrance, prophète Ésaïe. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors à tous ceux qui sont dans les flots de la souffrance ce soir, je voudrais leur dire, parce que la souffrance, ça veut dire aussi solitude, ça veut dire aussi inquiétude, désespoir. Je voudrais leur dire, c'est le Seigneur qui le dit, ne craignez pas. Accueillez la miséricorde de Jésus. Abandonnez Jésus douloureux. À la croix où Jésus souffre, Dieu a touché nos souffrances. Il a touché nos douleurs. Et à la croix, il commence toute chose nouvelle. La souffrance n'est pas anéantie, mais elle est vaincue. Dieu souffre toujours. Pensons pas qu'il s'est replié dans ses appartements confortables devant la guerre de la Syrie, devant le cancer de cette dame, devant le départ de cette grand-mère ce soir à l'hôpital. Le Seigneur, dans la Bible, nous le dit, il est compatissant, ça veut dire il souffre avec nous, pour nous, de nos détresses. Il est toujours en souffrance, comme disait Pascal, jusqu'à la fin du monde. Et nous aussi. Mais à la croix, il y a eu réconciliation avec Dieu. La souffrance principale, essentielle, ultime, grave, a été abolie. Le Seigneur nous a sauvés pour toujours. Amen. Et puis, à la croix commence la résurrection. Elle est en cours, elle est en marche, en chacun de tous ceux qui font confiance à Jésus. Amen. Je citerai Paul Claudel. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Dieu n'est même pas venu l'expliquer. Il est venu la remplir de sa présence. Merci au Seigneur pour cette miséricorde qui nous fait vivre, qui nous fait renaître, qui nous apaise, où il prend sur lui dans un transfert magnifique tout ce qui nous accable. Merci au Seigneur qui nous pardonne, qui nous guérit, qui nous relève, qui nous ressuscite. et ressuscitera. Amen.